Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Aujourd'hui, une spéciale classique durant laquelle nous irons 20 000 lieues sous les mers découvrir l'adaptation de ce mythique roman de Jules Verne signé Stuart Patton en 1916, ça s'est sorti chez Rimini. Nous retournerons à la surface pour Le Tigre des mers et Le Lion de Saint-Marc, deux films de Luigi Capuano édités par Artus Film. Nous partirons à la rencontre de Jean-Denis Bonnant, cinéaste mystérieux auquel Luna Park Film consacre un DVD intitulé Trouble 1966-1968. Nous découvrirons comment la BBC a adapté le grand classique d'Herbert George Wells, La Guerre des Mondes. Ça, c'est chez Elephant Film. Et nous resterons avec nos meilleurs ennemis, les Anglais, pour Queimada de Gillo Pontecorvo, sorti chez Rimini Édition. Et toujours chez Rimini, nous prendrons de l'altitude avec Les Tigres Volants de David Miller. Et enfin, nous terminerons par une salve de comédies sorties chez Elephant Film, dont certaines sont considérées comme cultes, à savoir Le Secret de mon succès d'Herbert Ross avec Michael J. Fox, Ralph Super King de David S. Ward avec John Goodman et Peter O'Toole, Jumeaux et Junior d'Ivan Reitman avec Schwartzy, bien sûr, et l'hallucinant Arrête où ma mère va tirer de Roger Spottiswoode avec Sylvester Stallone. Et voilà. L'équipe de Culture Prohibée remercie Blanche Aurore Duo, Kevin Boissezon, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Classique, je suis aujourd'hui accompagné de mes fidèles acolytes. Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Thomas Roland, rédacteur en chef de la revue Prime Cut, surnommé le loup-garou Picard, et qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut GG, collègue de Prime Cut, et salut à toi Damien, et bien évidemment, salut à toutes.
20 000 lieues sous les mers est un film américain muet, et oui, muet, incroyable, réalisé par Stuart Patton en 1916. Alors, pour celles et ceux qui se lamentaient devant la copie quand même très médiocre qui circulait depuis de nombreuses années en DVD, eh bien, ils peuvent désormais se réjouir, car l'adaptation signée Stuart Patton en 1916 du classique de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, vient de sortir dans une version restaurée magnifique en 4K chez Rimini Édition. Alors, pour moi, c'est une véritable Madeleine de Proust, puisque surtout l'ouvrage de Jules Verne, qui a accompagné mon enfance et d'autres enfants de par le monde, dans l'apprentissage de la littérature d'aventure. Ça a quand même été traduit dans près de 200 pays, ce livre. Et il compte les péripéties de trois naufragés capturés par le mystérieux capitaine Nemo. Et ils vont vivre au sein du sous-marin le Nautilus d'incroyables aventures. Et un bouquin, d'ailleurs, dont on se souvient aussi pour les superbes illustrations d'Alphonse Deneuville et Édouard Rioux. Alors, contrairement à ce qui est souvent affirmé, le film de l'Écossais Stuart Patton n'est pas la première adaptation du roman de Jules Verne. Il a déjà inspiré, entre autres, Georges Méliès, en 1907. Ce 20 000 lieues sous les mers n'est pas non plus la retranscription du livre la plus fidèle. Son final orientaliste en constitue même une trahison que je trouve assez brillante. Mais si le film de Patton est entré dans l'histoire, il le doit au fait qu'il est le premier à bénéficier de prises de vue sous-marines. Des scènes superbes durant lesquelles les protagonistes sont confrontés à une faune aquatique d'une beauté sidérante. Patton, réalisateur chevronné, s'amuse même à l'aide d'un hublot à composer un superbe plan de cinéma, un cadre dans le cadre, soulignant la magnificence des fonds marins. Le spectateur, même plus d'un siècle après, en reste pantois. Et puis on retrouve aussi l'ami Jean-Manuel Costa, qui était déjà venu dans cette émission, maître de la stop motion, qui supervise une version teintée proche de celle sortie à l'époque, avec un résultat quand même assez bluffant. Et puis le reste des bonus est intéressant. Il y a un entretien avec Laurent Hacquenin, par exemple, ou des propos d'Alexandre Joux sur les adaptations de Jules Verne au cinéma. Mais je crois, Damien, que toi aussi, tu t'es aventuré en compagnie du capitaine Nemo dans les fonds marins.
J'y ai plongé pour découvrir Monts et Merveilles. Donc, comme tu l'as dit, c'est un film muet et un film en noir et blanc, ce qui est assez intéressant de finalement retrouver ces films qui datent d'avant les années 20, 1920. Un détail intéressant dans ces films d'avant les années 20, c'est qu'ils ont encore, ils appliquent encore les blackface, ce qui est assez drôle par rapport à aujourd'hui, et notamment le capitaine Nemo qui est joué du coup par quelqu'un déguisé. L'autre point qui est intéressant, c'est que du coup c'est une deuxième adaptation par rapport à celle de Georges Méliès, mais c'est une adaptation assez particulière parce qu'en fait c'est une fusion entre deux bouquins de Jules Verne, c'est-à-dire 20 000 lieues sous les mers et L'île mystérieuse. Une partie de l'action du coup va se passer sur Terre en suivant les aventuriers de l'île mystérieuse, et une autre va se passer sous mer en suivant justement le Nautilus avec les naufragés qu'il a récupérés. Un autre ajout qui est fait et que je n'explique pas, c'est que le professeur Aronnax, qui dans le bouquin va avec des compagnons masculins, se retrouve ici avec sa fille. Et en termes de personnage, elle ne sert à rien. Ce qui est très drôle, vu qu'il y a un deuxième personnage féminin qui est introduit, qui est plus inspiré de l'île mystérieuse et qui conduit justement à cette fin assez orientalisme, assez particulière, que pour le coup j'ai bien aimé. Et qui, elle, est le moteur de l'histoire, directement lié à l'histoire de Nemo. Alors comme tu l'as dit, les scènes sous-marines sont très belles, c'est l'un des premiers films avec des scènes sous-marines, et l'un des trucs qui magnifie ces scènes, c'est vraiment toute la musique classique qui est utilisée derrière et qui rappelle toute une nostalgie de l'époque où au final le cinéma était muet et il communiait avec la musique.
Je vais remonter à la surface, les amis, je vais remonter à la surface pour me diriger vers deux films de la collection de pirates consacrés aux pirates par Artus Film, à savoir deux films de Luigi Capuano, alors Le Tigre des Mers de 1962 et Le Lion de Saint-Marc de 1963. Donc deux films qui se suivent, réalisés à la chaîne dans ce fameux cinéma italien qui faisait comme ça des filones et et qui, produisait à la chaîne des films sur le même modèle. Là, en l'occurrence, Le Tigre des Mers, un film de 62, qui raconte l'histoire donc, du tigre, un vieux pirate qui organise un combat pour désigner celui qui prendra sa suite. Et le lieutenant William sort vainqueur, mais est ensuite défié par Consuelo, qui termine victorieuse, car Consuelo est une femme. La nuit suivante, le tigre est retrouvé mort, le poignard de William planté dans le dos, et débute donc un film d'aventure, un film de pirate assez chouette. Hein, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres mots pour le qualifier. C'est des produits d'exploitation des années 60 à destination du grand public, très enlevé, très virevoltant. Il s'inspire, hein, quand je parlais de Filone, il s'inspire très clairement de Marie Larousse, la femme pirate que Umberto Lenzi a tourné l'année d'avant, qui lui-même s'inspire de Fumetti, de bande dessinée italienne, petit format. Là. Là, le petit plus, c'est que c'est Gianna Maria Canale, très grande actrice italienne, qui joue le personnage principal et qui était la femme de Riccardo Freda. C'est pour ça qu'elle a beaucoup tourné avec lui et qui est une des grandes actrices de son époque, qui a singulièrement marqué les cinéphiles. Le film bénéficie d'un beau scope, parce que c'est pas un film qui a dû avoir un budget faramineux, mais il a un très beau scope. Et il est très rythmé, il y a beaucoup d'action. Et puis surtout, il y a une musique assez sympathique aussi de Carlo Rusticelli, qui est un compositeur qu'on redécouvre avec le temps, qui a travaillé avec Bava, tout ça, et qu'on redécouvre avec le temps, qu'on avait un peu oublié, c'est assez sympathique. Et l'autre film sorti par Artus Film, là, Le Lion de Saint-Marc, lui, alors, il est sorti dans la collection Piraterie, tout ça, mais il est plus proche en fait du film d'aventure de KPDP. Alors, la cité de Venise est la cible d'attaques régulières de la part d'une bande de pirates sous l'impuissance des doges. Le fils de l'un d'eux, Manrico, lors du bal en l'honneur de ses fiançailles avec Isabella, subit une nouvelle attaque. Le soir même, il réunit quelques amis et décide de passer à l'action afin de mettre un terme à toutes ces attaques. Voilà, donc on est plus ici dans un film d'aventure de KPDP avec un Gordon Scott. Alors, Gordon Scott, grand acteur de péplum italien, un bon, avec Steve Reeves, un des meilleurs, en fait, et aussi grand acteur de films de KPDP. Là, il nous campe un peu un ersatz de Zorro avec C'est un justicier masqué, tout ça. Ça marche très bien. C'est aussi bien que l'autre film dont je viens de parler, de Luigi Capuano. Et c'est toujours Capuano, d'ailleurs. Hein, et on retrouve encore Gianna Maria Canale hein, dans un des rôles principaux. Et on est quand même plus proche du film de KPDP, mais c'est pareil, c'est enlevé, c'est dynamique, c'est très agréable. C'est un très bon divertissement populaire et moi je prends beaucoup de plaisir à regarder ce genre de film. Voilà, ça me rappelle ma jeunesse, mon enfance devant les films de KPDP, qui est un genre qui est aujourd'hui un peu tombé en désuétude quand même, hein, qui n'est quasiment plus pratiqué au cinéma que par petites vagues comme ça, mais c'est très rare, c'est très rare. Two words in my head. écoutez Culture Prohibée. Nous allons quitter les eaux maintenant, mon cher Thomas, et nous diriger vers d'autres rives, les rives d'un cinéma un peu plus ambitieux quand même, mais un peu plus original, qui est le cinéma de Jean-Denis Bonnan.
Jean-Denis Bonnan qui est à l'honneur chez les éditions Luna Park Film, un petit éditeur qui édite des petites perles oubliées, dont ce DVD Trouble 1966-1968, qui met donc à l'honneur les œuvres de Jean-Denis Bonnan. Hein. Jean-Denis Bonnan réalise déjà un premier court-métrage en 1962, La vie brève de Monsieur Monsieur. Et Jean-Denis Bonnan, il est peu connu. Hein. Il est né en 1942 à Tunis. Il est aussi plasticien, vidéaste, poète. Alors, il est d'abord monteur aux Actualités françaises jusqu'en 1967. Il devient chef monteur de long métrage jusqu'en 1975. Entre-temps, passé à la réalisation, il signe en 1966 le film qui ouvre le DVD Tristesse des anthropophages, qui marque le début de ses ennuis avec la commission de contrôle des films, avant d'être confronté à la difficulté de diffuser ses autres films. Alors aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont donc visibles grâce au DVD et Trouble 1966-1968 propose donc 5 des premiers travaux que réalise Jean-Denis Bonnan entre ces années-là. Donc il y a Tristesse des anthropophages, Mathieu Fou, Une saison chez les hommes, L'école des fous, Le bel et moi de mai. Et en bonus, on peut trouver aussi 2 autres films. Oui, mais 68, un portrait de François Tusk, réalisé en 2018, et Madame la France, réalisé en 1977. Cette sélection donne une idée assez large du cinéma de Jean-Denis Bonnan, un cinéma dans lequel on parle beaucoup de mai 68, notamment à travers des documentaires comme Le bel et moi de mai, ou encore le portrait consacré à François Tusk. Mais il y a aussi des films largement plus décalés, comme Mathieu Fou, une histoire de passion amoureuse forcément violente, ou encore L'école des fous. Oui, la folie est souvent présente chez Jean-Denis Bonnan, qui questionne ainsi la normalité, le rapport au monde, la difficulté de s'intégrer, la difficulté d'être soi. Le monde décrit dans les films de Jean-Denis Bonnan est un monde violent, en révolte, qui présente des personnages en marge. Il s'en dégage un certain pessimisme, une vision du monde un peu désespérée, et dans lequel il est difficile de trouver sa place. Avec Tristesse des anthropophages, il signe un film assez radical, très mal reçu à l'époque, car elle a été tout bonnement complètement censurée. Il s'agit d'une œuvre iconoclaste décalée dans laquelle les rapports entre les individus ne sont quasiment basés que sur la violence, l'intolérance ou l'exploitation. Le cinéaste propose une critique assez féroce de la société de consommation, basée sur des rapports de classe, mais qui ne ferait plus preuve d'exigence et dans laquelle il faudrait se conformer à une norme, à des règles où tout écart serait sévèrement puni. Ce sont des films faits avec peu de moyens, mais justement par ce biais, on ressent l'envie de tourner, par une espèce de rage. Il se dégage de certains de ces films une fureur, une volonté de ruer dans les brancards, comme dans Le bel et moi de mai, ou de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, comme dans L'école des fous, tourné avec des pensionnaires d'un hôpital psychiatrique. Un cinéma libre dans sa forme, dans lequel Jean-Denis Bonnan mélange les supports. Étant plasticien, il aime grimer ses acteurs, insérer des dessins au montage, ce genre de choses. Le dernier film présent sur ce DVD, Madame la France, est ouvertement anticolonialiste. Pourtant, il abandonne ici tout aspect réaliste et le style se fait beaucoup plus poétique, tout en évoquant un sujet grave. Ami avec les réalisateurs de la Nouvelle Vague et des critiques des Cahiers du cinéma, également complice de Jean Rolland, Jean-Denis Bonnan n'appartient pourtant à aucun courant cinématographique. Ses films restent très personnels, inclassables, uniques, et comme ses personnages, Jean-Denis Bonnan est un cinéaste en marge. Et moi, je ne serais pas étonné que Pier Paolo Pasolini ait vu Tristesse des anthropophages avant de faire Salaud, parce que il y a une même thématique, une même critique de la société de consommation, et surtout une façon de faire très similaire.
Nous allons quitter quelques instants le cinéma pour rester alors plutôt classique de la littérature. Hein. On va parler de La Guerre des Mondes, qui a donc été adaptée, mon cher Damien, par la BBC très peu de temps pour une mini-série qui présente une adaptation, ma foi, quand même assez fidèle et aussi singulière du livre d'Herbert George Wells.
Donc la BBC l'a adapté dans une mini-série de 3 épisodes en s'adaptant vraiment à l'époque et en essayant d'être le plus fidèle de cette époque victorienne. Ici, on est en 1900 dans les alentours de Londres. Ce qui est assez intéressant car toutes les adaptations qui ont été faites juste à présent se sont concentrées sur la modernité et autre chose, ils ont toujours finalement déporté un peu l'action aux États-Unis, reflétant plus ou moins les peurs de l'époque liées aux États-Unis. Donc ici on a un choix d'adaptation très intéressant qui est fait en plus dans la période où le Brexit avait lieu en Angleterre, ce qui d'une part resitue l'action en Angleterre, c'est-à-dire le lieu où se passe l'action dans le bouquin. Et on retrouve ici des idées de Wells qui, notamment avec ce bouquin, montrait que l'Angleterre, qui était une superpuissance dominant tout à l'époque à travers toute la planète, comment finalement à se retrouver face à son impuissance, face à une autre superpuissance venue d'un autre monde. Il posait les questions du colonialisme et se demandait si en fait tout ça n'était pas juste lié à vraiment la question du plus fort, plus qu'une idée civilisatrice comme on avait pu le voir. J'aime bien la façon dont ils ont redesigné les tripodes dans la série. Je trouve qu'ils ont un truc assez particulier qu'on n'avait pas vu avant. En fait, d'habitude, ils sont représentés tout lisses, alors que là, ils ont un peu un aspect rocheux qui doit être lié à Mars. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que les tripodes ont toujours utilisé des rayons laser et du coup, on les a toujours matérialisés comme des rayons laser. Sauf que H.G. Wells a toujours décrit comme des rayons ardents, ce qui fait que dans la série, lorsqu'ils représentent un tripode qui tire, on ne voit pas un laser qui part. On voit juste cet effet de chaleur qu'on a généralement en été, quand on regarde la route et qu'on voit les choses onduler. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'on ne voit pas vraiment lorsqu'un tripode tire. On le devine finalement à travers une déformation qu'une image peut avoir, ce qui rajoute encore plus de la tension vu qu'on ne voit pas d'où part vraiment le tir. Donc je conseille à tous ceux qui veulent découvrir La Guerre des Mondes dans sa version la plus fidèle de se pencher sur la série, qui est d'ailleurs très courte vu qu'il n'y a que 3 épisodes.
Série qui est disponible donc chez Elephant Film. Écoutez, Culture Prohibée spéciale classique. Complex systems which make up man, they made and used different bodies according to their needs. They never tired, never slept, and never suffered, having long since eliminated from their planet the bacteria which cause all fevers and other morbidities. Moi, je vais vous présenter des sorties qui viennent d'arriver chez Rimini, l'éditeur Rimini, avec deux films très différents et deux films qui me tiennent à cœur. On va rester un peu avec les Anglais, déjà, pour Quémada. Quémada de Gillo Pontecorvo, un film de 69. Pontecorvo, ce n'est pas vraiment un inconnu, parce qu'en 66, il a fait la bataille d'Alger, qui a considérablement marqué l'histoire du cinéma, et qui est considéré comme un événement politique en soi, ce film, parce qu'il a une particularité, ce film quasi-documentaire, quasi-naturaliste, sur donc la bataille d'Alger, sur le combat du FLN, hein. Il est assez fabuleux parce que bon, déjà il fait passer une victoire pour une défaite pour une victoire. Enfin, il est assez sensationnel et il a ça de particulier, ce film, c'est que il a autant été utilisé par les forces de gauche pour plébisciter la lutte du FLN et tout ça et tout, que par des États très 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 à droite, des États totalitaires. Peut-être de gauche et totalitaire, hein, pas de dessin, qui l'ont utilisé pour montrer justement ce qu'il fallait faire en termes militaires pour mener un coup d'État à son terme, quoi. Voilà, c'est assez intéressant, ce film. Il a une destinée un peu particulière, et ce film du coup déclenche un engouement critique international autour de Gillo Pontecorvo, réalisateur italien, qu'on ne connaît pas en France. Puisqu'en France, évidemment, film sur la guerre d'Algérie, il est interdit. Donc moi, j'ai cherché très longtemps ce film. Je l'ai vu quand il est sorti en DVD. Il était très, très difficile à voir. C'est vraiment un film... C'est comme avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier, tout ça. Enfin, c'est des films dont on ne voulait pas entendre parler en France. C'était complètement tabou. Et là, ce film rencontre un tel succès que Pontecorvo, il rentre un peu dans la catégorie du coup réalisateur plus important, et il décide de tourner un gros film. Ça va être ce film, Quemada, qui est toujours scénarisé par Franco Solinas. Franco Solinas, c'est un grand scénariste de gauche. C'est le compère, entre autres, par exemple, de Solima sur ses westerns humanistes. Voilà. Et là, c'est clairement un film... sur la lutte des classes, et c'est un film sur la mainmise des Occidentaux on peut extrapoler, voire une métaphore de la mainmise des Occidentaux sur les pays d'Amérique latine, par exemple, et sur la mainmise des Américains. Bon, c'est d'ailleurs inspiré d'un véritable personnage qui s'appelait William Walker, qui était un aventurier américain qui est né en 1824 et qui a fini, si je ne m'abuse, par être fusillé au Honduras en 1860, et qui était un personnage comme ça, qui s'emparait de différentes régions et États sud-américains en provoquant des soulèvements armés. Et en fait, c'est à partir de ce personnage que Pontecorvo et surtout Franco Solinas, il a l'idée de ce personnage qui va être interprété donc par Marlon Brando, qui est un agent du gouvernement britannique, qui vient en fait fomenter une révolution à Quemada. Alors Quemada, c'est qui veut dire brûler. Au départ, ça devait s'appeler Quemada sans Q-U-E-M-A-D-A. Et c'était en fait un Anglais qui débarquait dans une colonie espagnole. Mais le gouvernement franquiste a mis une énorme pression. Donc du coup, c'est devenu un Anglais qui débarque dans une colonie portugaise. Puisque Quemada, en portugais, on rajoute juste le I entre le E et le M. Et donc, du coup, on ne change pas grand-chose au titre. Voilà. Et Quemada, ça veut dire brûler, puisque on raconte sur cette île qu'on a brûlé des esclaves noirs qui se sont révoltés. Et d'ailleurs, il y a un petit îlot blanc, quand Brando arrive au début, un petit îlot blanc à quelques mètres des côtes, qui, en fait, il est blanc parce que ce sont lorsqu'on a brûlé ces noirs, leurs os... C'est les os de leur squelette qui donnent cette couleur blanche à cet îlot. Alors, Brando, il arrive donc dans cette petite île de Quemada, qui est une île fictive, et il décide il doit rencontrer normalement un leader noir anti-esclavage. Mais le problème, c'est que quand il arrive, ce leader noir, il est trop tard. Il a été arrêté et on lui coupe la tête. Voilà. Donc et en fait, c'est cruel, hein, les Portugais lui coupent la tête parce que dans leur croyance à eux, ils croient en la réincarnation. Et si on coupe la tête, tu ne peux pas te réincarner. Donc du coup, on leur coupe la tête pour les priver de réincarnation. Enfin bon, voilà, c'est comme ça que c'est expliqué dans le film. Et ce qui va se passer, c'est que Brando, du coup, il va manipuler un peu les métis de l'île, pour les amener à fomenter une révolution, puis il va aussi manipuler... Un esclave noir pour l'amener aussi lui à fomenter la révolution. Il manipule tout le monde pour justement que les Anglais puissent reprendre la main sur le commerce sur l'île. Voilà, il baisse tout le monde, hein, il fait voilà, et c'est un salopard fini. Alors il est assez bon en salopard fielleux, Brando. Voilà, faut savoir que le tournage a été un enfer. Il y a eu des dépassements de budget de dingue. Pontecorvo, il en pouvait plus de Brando, qui lui a fait les 1000 caprices. D'ailleurs, là, il y a la version longue. C'est la première fois qu'on peut voir la version longue dans cette édition éditée par Rimini. Regardez la version longue parce qu'elle est en italien. Si vous regardez la version d'origine, qui est où vous entendez vraiment la voix de Brando, Brando prend un accent complètement improbable. Il est limite ridicule, alors qu'en fait, doublé en italien, c'est très bien. Parce que, bon, au niveau de la gestuelle et tout, il est bon. Enfin, c'est encore un Brando improbable, voilà, qui nous fait des trucs improbables. Et qui campe ce salopard intégral, manipulateur, fielleux, voilà. Et ça raconte très bien, effectivement, comment Alors c'est un film anticolonialiste aussi, anti-impérialiste. Et c'était un peu le terrain de jeu des Occidentaux, quoi, tous ces pays qu'on exploitait à fond de ballon, comme on dit, c'est-à-dire on leur piquait toutes leurs ressources, on allait jusqu'au bout, puis quand il n'y avait plus rien, on les abandonnait, quoi, voilà. Et alors, c'est un film anti-spectaculaire, hein, un peu dans la même veine que... Il se ressemble pas complètement, mais un peu dans la même veine que la bataille d'Alger, mais avec un peu plus de lyrisme. C'est-à-dire on s'éloigne un peu du documentaire. Il y a des plans lyriques très bien soutenus par la musique de Morricone, par exemple. C'est même par moments un film assez excentrique. Alors ça tient aussi beaucoup à Brando, hein, mais un film un peu fou, un peu excentrique. Mais il va conserver, hein, dans sa forme l'aspect documentaire de la bataille d'Alger. Et puis c'est aussi un film particulièrement sombre. Hein. Un film malade, parce que c'est pas un film totalement réussi, c'est un film qui a des longueurs, tout ça, et c'est, quand je vous disais, c'est un film anti-spectaculaire, c'est-à-dire on parle de révolution mais il y a jamais de bataille, on arrive toujours après la bataille, c'est toujours quand c'est fini, c'est vraiment très très particulier, quoi. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir le comportement des Occidentaux et le comportement des impérialistes qui prennent donc comme terrain de jeu ces pays, parce que ça fait toujours écho à ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, en Afghanistan, les Afghans voient encore le grand malheur laissé par les Occidentaux, là en particulier par les Américains, qui sont d'ailleurs les Américains la cible, hein, du film de Pontecorvo. Donc, je vous conseille vivement de voir ce film, de voir cette version longue qu'on n'avait jamais vu et qui est, ma foi, très intéressante. Il faut aimer le cinéma de Pontecorvo, par contre, hein, c'est particulier. Vous écoutez Culture Prohibée. Je reste chez Rimini pour vous parler d'un autre film, un film de David Miller. David Miller, c'est un réalisateur qu'on aime bien dans Culture Prohibée. On avait parlé du Masque arraché, qui était aussi sorti chez Rimini. C'est aussi le réalisateur de Seuls sont les indomptés, cette sorte de néo-western avec Kirk Douglas assez génial. Voilà, un film vraiment très, très marquant pour ceux qui l'ont vu. J'ai voulu voir ce film, Les Tigres volants, parce que c'était un film de David Miller. Parce que je ne suis pas très fan des films de guerre, ce n'est pas trop mon truc. Et puis aussi parce qu'il y a John Wayne dans le film, et que je crois que c'est le premier film, hein, de John Wayne, c'est le premier film de guerre de John Wayne, lui qui n'a jamais été en fait à la guerre, il qui a vécu ça comme un trauma, hein, d'ailleurs, et beaucoup expliquent d'ailleurs que mais ses proches, tout ça et tout, qu'après il est devenu une sorte de super patriote pour compenser en fait le fait qu'il n'a jamais été à la guerre, et que c'était une des rares stars de l'époque à n'être jamais allé à la guerre, et du coup il en est venu à faire des aberrations comme les bérets verts, qui est quand même une aberration cinématographiquement parlant, et pas que cinématographiquement parlant d'ailleurs.
En même temps, c'est tellement drôle.
Ouais, mais c'était pas le but recherché, quoi, voilà. Et là, dans ces tigres volants. On est au début de la Seconde Guerre mondiale, on est en Chine, et un groupe d'aviateurs américains constitue l'escadrille aérienne des tigres volants. Vous savez, c'est un peu célèbre parce qu'il y a le bout des avions avec les dents, là, comme ça, de dessiner dessus, voilà. Et cette poignée de volontaires est chargée de défendre le peuple chinois en combattant les avions du méchant envahisseur japonais. Donc, les tigres volants sont commandés par un homme honnête, juste et bon, Jim Gordon, alias John Wayne, évidemment. Donc, mais l'équilibre qui règne au sein du groupe va être perturbé par l'arrivée d'une nouvelle recrue, le roublard et fanfaron Woody Jason, interprété par John Carroll. Et le 7 décembre 1941, les soldats apprennent évidemment le drame de Pearl Harbor. Impliqués désormais dans le conflit mondial, ils devront alors être encore plus sur la défensive et participer aux opérations de destruction. Alors, les tigres volants, historiquement, c'est un film qui est important. Il vient juste après, il s'inspire de l'intrigue de l'excellent film de Howard Hawks, qui est aussi sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui s'appelle Seuls les anges ont des ailes. Il s'en inspire un petit peu. Bon, là, on est sur une compagnie postale en Amérique du Sud, chez Hawks, mais le déroulé de l'intrigue ressemble beaucoup. Et puis, il y a cette escadrille dirigée par un excellent John Wayne, homme juste, homme charismatique et tout, qui est très intéressant. Au niveau de la mise en scène, parce que le scénario, effectivement, aujourd'hui, il paraît assez conventionnel, les méchants japonais, les gentils américains, tout ça, mais il évite pas mal de pièges. C'est-à-dire qu'on ne nous présente pas les Japonais aussi caricaturalement que dans d'autres films de propagande, parce que c'est clairement un film de propagande, attention. Ce qui est embêtant, c'est que la mise en scène de David Miller, qui est un formidable metteur en scène, n'est pas toujours très, très inspirée. Ce n'est pas son meilleur film, quoi, en fait, voilà. Il y a une scène qui est assez impressionnante. Il fait un panorama à 360 degrés lors d'un briefing fait par John Wayne, voilà, où là, on sent que c'est le Miller qui va, dans les années à venir, mettre une patte plus forte en termes de mise en scène dans ses films, parce que quand on se rappelle un film comme Le Masque arraché, qui est quand même un monument de mise en scène, on voit bien que David Miller, c'est un sacré metteur en scène. Alors donc, c'est pas un grand film, c'est cette œuvre de propagande qui est pas toujours subtile, mais ça reste à voir, parce que les séquences de bataille aérienne sont assez belles, et ça reste à voir parce que dans l'histoire des films de propagande, il est important puisque c'est un des premiers. Et puis, c'est aussi le premier film donc, de guerre avec John Wayne. Donc, tout ça, c'est autant de bonnes raisons pour voir ce film de David Miller. Alors, Damien, je ne connais pas le secret de ton succès, mais je crois que tu veux nous parler de Le Secret de mon succès, qui est sorti chez Elephant Film dans une salve de classiques de la comédie des années 80-90, début des années 90.
Le secret de mon succès, ou plutôt celui de Michael J. Fox, qui joue ici le rôle principal. Il joue le rôle de Bradley Foster, un jeune provincial diplômé au Texas qui part à New York pour devenir riche, mais la dure réalité new-yorkaise le rattrape. Heureusement, son oncle possède une multinationale dans laquelle il va débuter au plus bas de l'échelle. C'est un film de Heber Ross, qui est le réalisateur de Footloose et qui l'a réalisé avant d'ailleurs. Le film est une comédie très bien qui fonctionne essentiellement sur les quiproquos et tout ce qui va être l'humour de situation. Il est très dynamique et tout en restant d'une certaine façon assez classique. C'est intéressant parce que, à part d'un retour dans le futur, j'avais jamais vu Michael J. Fox dans un autre rôle, et ici c'est agréable de le revoir dans ce rôle un peu de jeune perdu qui a besoin de se faire guider. Enfin, je dis qu'il est perdu. Il l'est pas très longtemps parce que lui sait exactement ce qu'il veut et il essaye de tout faire pour y arriver. Au final, le film a une morale quand même assez étrange, parce que si on prend la compilation de tout ce qui se passe dans le film, donc les différents moments où il se fait passer pour quelqu'un d'autre, les scènes où il rencontre des personnages et il fait des trucs avec, et quand on découvre l'identité de la personne, on est un peu malaisé pour lui. Donc au final, le secret de son succès repose sur les quiproquos, d'une certaine façon coucher pour réussir et avoir quelqu'un de déjà très riche dans sa famille.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial classique. Moi, je vais m'enchaîner sur un autre film qui est vraiment culte aux États-Unis, qui n'est pas forcément très, très connu en France, mais qui s'appelle Ralph Super King, qui est un film de 91. C'est un film de David S. Ward et avec une sacrée distribution, hein. John Goodman, Peter O'Toole et John Hurst. Et en fait, le film est culte parce qu'il met en scène à l'époque John Goodman, c'est le premier rôle au cinéma qui est très connu pour, premier rôle en vedette, hein, qui est très connu pour avoir été, ce qui est vrai, hein, un fer de lance d'une marque de fast-food d'hamburger. Et donc, il reprend un peu le même type de personnage qu'il tenait dans les pubs, là, dans le film. Alors, l'histoire est assez simple. Hein, John Goodman va camper un roi, en fait, parce que la famille royale britannique décède dans son ensemble. Et à force de rechercher dans l'arbre généalogique, ils vont trouver qu'en fait, c'est John Goodman, l'héritier du trône, et qui est en fait lui un chanteur de salon américain, donc c'est pas grandiose quand même. Il a en fait un lien de parenté avec la couronne britannique, donc il se retrouve à être roi, et il est aidé dans sa tâche par un aristo très très Alfred façon Batman, qui est joué par Peter O'Toole, voilà. Mais évidemment, on le manipule un peu, ce Ralph Super King, et il va s'en rendre compte. Alors bon, il faut savoir que ce film, dans le monde anglo-saxon, avait déclenché un petit scandale parce que les Anglais n'avaient pas du tout apprécié qu'on fasse mourir la famille royale britannique. Bon, ce qui était un peu de méconnaissance, c'est visiblement c'était adapté d'un bouquin culte, hein, qui avait cartonné. Donc logiquement, on devait s'y attendre, hein, vu que c'était l'adaptation du bouquin. Bon, moi j'ai vu le film. Je suis pas dingue du film. Voilà, je suis pas dingue du film. Je trouve que c'est une comédie qui se regarde. Ça marche beaucoup grâce au talent des acteurs. Il y a des moments un peu fous, mais aussi pas mal de trucs qui laissent à désirer, des faux raccords, tout ça. Enfin, c'est pas toujours grandiose. David S. Ward, c'est pas le scénar est bien, mais je trouve que c'est pas un très bon réalisateur. Il aurait mérité un réalisateur un peu plus talentueux, ou quelqu'un qui maîtrise bien la comédie, comme par exemple Yvonne Reitman. Alors Yvonne Reitman, lui, c'est autre chose, puisque Yvonne Reitman, bien sûr, c'est SOS Fantôme, qui est hyper connu. Alors Yvonne Reitman, c'est pas un grand metteur en scène, mais il a su percevoir les modes de son époque. Et dans les années 80 et 90, il a imposé sa patte et il a tourné quelques films. Alors effectivement, le Ghostbuster, surtout le premier, qui est vraiment culte. Et puis plusieurs films, dont ces deux films, là, Jumeau et Junior, hein, en fait, qui présentent en fait à chaque fois des duos Schwarzenegger-Danny DeVito. Voilà, donc effectivement, c'est un petit côté Laurel et Hardy. Jumeau, c'est l'histoire de... Alors, c'est 88, hein, ça, on est un peu... on est à la fin des années 80. Le réalisateur de Arrête de ramer, t'es sur le sable et Cannibal Girls, parce qu'il n'a pas fait que Ghostbusters, hein, nous raconte l'histoire de Julius Benedict, qui vit sur une île située entre Bora Bora et l'Australie depuis sa naissance. Il n'a jamais vu la civilisation. Quand il apprend qu'il est le fruit d'une expérience génétique et qu'il a un frère jumeau, Vincent, aux États-Unis, il décide de tout faire pour le retrouver. Mais Vincent n'a pas eu la vie tranquille de Julius. Il vivote de petites arnaques en petites arnaques. Leur rencontre va tout bouleverser. Alors évidemment, le grand sauvage baraqué et le petit arnaqueur, je n'ai pas besoin de vous expliquer qui les interprète, hein, ça donne en fait une comédie fort sympathique à la revoyure, vraiment sympathique, vraiment, on n'est pas très loin de Terence Hill et Bud Spencer, en fait, c'est assez sympathique. En plus, il y a une sous-intrigue criminelle, des histoires de vol de bagnole, tout ça. Enfin, ça donne un petit truc sympa. L'alchimie entre les deux acteurs fonctionne plutôt bien. C'est une comédie très rythmée, très sympathique. Et il va essayer, Yvonne Reitman, de reproduire la formule. Hein. Il va les réunir à nouveau pour Junior. Alors Junior, ça raconte quoi ? C'est l'histoire du docteur Alex S. qui prépare depuis plusieurs années un médicament miracle censé assurer des grossesses sans risque, l'Expectan. Mais l'administration américaine lui refuse d'expérimenter son invention. Son associé, le docteur Larry Arbogast, lui suggère de prendre lui-même ce médicament. Évidemment, il le fait et il va devenir le premier homme enceint de l'histoire. Voilà. Et puis, évidemment, il va se retrouver embringué dans une histoire un peu grotesque, un peu ridicule, avec Danny DeVito. Hein, mais moins performant Danny DeVito que dans Jumeaux. On sent que... Alors, en plus, aujourd'hui, le film fait très daté, quand même. Hein, sur ces questions-là, le film a pris un petit coup de vieux, je trouve. Il est beaucoup moins bon que le précédent, que Jumeaux. Il tombe un peu à plat. Schwarzenegger est meilleur acteur. Il a bien progressé entre les deux films. Mais malgré tout, bon, c'est quand même assez ridicule, cette histoire d'homme enceint. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et puis, ça aurait pu faire un film féministe, mais c'est même pas le cas. En fait, on retombe dans les clichés très hétéronormés, classiques. Voilà, ce qui fait que c'est un film tout à fait sympathique, hein, qui se suit, et puis il y a Franck Langella, c'est toujours bien quand il y a Franck Langella dans un film, mais on va dire que je préfère largement Jumeaux à Junior. Et puis, autre musclé, vedette du cinéma d'action, qui a tenté, avec quand même beaucoup moins de réussite que Schwarzenegger, de se diversifier et de faire dans la comédie, c'est Stallone. C'est Stallone pour Arrête où ma mère va tirer, mon cher Damien.
Film de Roger Spottiswoode de 1992, donc qui se repose essentiellement sur son acteur principal et vedette Sylvester Stallone et qui lui accole en mère Estelle Getty. L'histoire du film, c'est celle du policier Joe Bornowski qui résout ses affaires de façon musclée et entretient une relation amoureuse compliquée avec sa supérieure. Sa mère vient lui rendre visite et devient le témoin d'une fusillade. Alors, comme vous pouvez le deviner, le résultat est extrêmement étrange. On retombe dans ces hot couples, policiers, c'est-à-dire qu'on met du coup un gros musclé baraqué avec un peu un comic relief qui n'appartient pas du tout à la police. Ce qui donne des situations extrêmement étranges, surtout dans cette relation maternelle, qui donne à Stallone des cauchemars. Donc, si vous avez envie de voir Stallone en couche, courez sur ce film, et je pense pas que ce soit une vision partagée par beaucoup de monde autour de cette table et dans les cinémas. Il y a un détail assez particulier que je trouve intéressant, c'est que le film date de 1992, et dans le film, il y a un moment où la mère cite Arnold Schwarzenegger dans Terminator, où elle dit « I'll be back », ce à quoi son fils... elle dit « Oui, c'est ce que disent tous les policiers », et Stallone lui répond « Non, non, c'est dans un film, c'est dans Terminator ». Et en fait, un an plus tard, il y a The Last Action Hero qui sort du coup avec Schwarzy, et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une scène où il visite un vidéoclub, et sur l'affiche de Terminator, c'est Sylvester Stallone qui joue dans le film, et pas Arnold Schwarzenegger. Alors, ça doit être un pur hasard, mais je trouve le détail quand même assez drôle pour le coup.
Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur theextasyoffilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire, de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.